Les frères Corse, d'Alexandre Dumas. Adaptation, Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Thibaut Vinson, Julien Barré, Evelyne Guimara, Yvan Cory, Laurent Cléry, Nicolas Racca, Louise Pasto, Anne Cantino.
Vers le commencement du mois de mars de l'année 1841, je voyageais en Corse. J'y étais venu de l'île d'Elbe. J'avais débarqué à Bastia, j'avais visité Corté et Ajaccio, et je parcourais pour le moment la province de Sartène. Ce jour-là, j'allais de Sartène à Sullacaro, avec un guide, de peur de m'égarer dans les maquis. Vers les 5 heures, nous arrivâmes au sommet de la colline qui domine à la fois Olmetto et Sullacaro.
Seigneurie désire-t-elle loger ?
Je jetai les yeux sur le village qui semblait presque désert. Je désignai une grande maison carrée, bâtie comme une forteresse.
Ah ! Nous allons chez Madame Savilia de Franck. Votre seigneurie n'a pas fait un mauvais choix. Et l'on voit qu'elle ne manque pas d'expérience.
Mais n'y a-t-il pas d'inconvénient à ce que j'aille demander l'hospitalité à une femme ?
Quel inconvénient votre seigneurie veut-elle qu'il y ait cela ?
Je pourrais la compromettre par ma présence. Cette dame est veuve, n'est-ce pas ?
Oui, Excellence.
Eh bien, recevra-t-elle chez elle un jeune homme ?
Qu'est-ce que cela peut donc lui faire, que vous soyez jeune ou vieux ?
Quel âge a donc Madame Savilia ?
40 ans, à peu près.
Ah, alors à merveille. Et des enfants, sans doute ?
2 fils. 2 fiers jeunes gens de 21 ans.
Tous deux ?
Oui, ce sont des jumeaux. Lucien et Louis.
Les verrai-je ?
Vous verrez sans doute Lucien qui demeure avec elle. Quant à Louis, il habite Paris. Il se destine à devenir avocat.
Et Lucien ?
Lui, il sera corse.
Eh bien, va pour la maison de Madame Savilia de Franchi.
Excellence ?
Mon ami, est-ce indiscret à un étranger qui ne connaît personne à Sullacaro de venir demander l'hospitalité à votre maîtresse ?
Non, certainement, Excellence. L'étranger fait honneur à la maison devant laquelle il s'arrête. Maria ?
Oui ?
Prévenez Madame Savilia que c'est un voyageur français qui demande l'hospitalité.
Il s'agit d'Alexandre Dumas.
Très bien, monsieur.
Que votre Excellence ne s'inquiète de rien. Tout son bagage sera porté dans sa chambre.
Dumas, vraiment. Vous êtes le bienvenu.
Madame, c'est un honneur. Vous devez me trouver bien indiscret. Je viens vous demander l'hospitalité pour une nuit seulement, madame. Demain matin, au point du jour, je partirai.
Vous êtes libre de faire ainsi qu'il vous conviendra, monsieur.
Cependant, j'espère que vous changerez d'avis et que nous aurons l'honneur de vous posséder plus longtemps. Maria ?
Madame ?
Conduisez monsieur à la chambre de Louis. Allumez du feu à l'instant même et portez de l'eau chaude.
Bien, madame.
Pardon, je sais que le premier besoin du voyageur fatigué est l'eau et le feu. Veuillez suivre Maria, monsieur. Demandez-lui les choses qui pourraient vous manquer. Nous soupons dans une heure.
Je compris aussitôt qu'on m'avait donné cette chambre, qui était celle du fils absent, comme la plus confortable de la maison. Tandis que je me rafraîchissais, ma porte s'ouvrit.
Excellence, Monsieur Lucien de Franchi arrive à l'instant même et vous fait demander l'honneur de venir vous souhaiter la bienvenue.
Je suis aux ordres de Monsieur Lucien de Franchi et tout l'honneur est pour moi.
Vous m'excuserez si je vous dérange, monsieur. Je voulais m'informer si vous ne manquez de rien. Nous sommes encore si sauvages, nous autres Corses. que ce n'est vraiment qu'en tremblant que nous exerçons vis-à-vis des Français, surtout cette vieille hospitalité qui sera bientôt la seule tradition qui nous restera de nos pères.
Vous avez tort de craindre, monsieur. Il est difficile de mieux aller au-devant de tous les besoins d'un voyageur que ne l'a fait Madame de Franqui. Et cette chambre pourrait me faire croire que je suis chaussé d'antin.
Oui, c'était une manie de mon pauvre frère Louis. Il aimait à vivre à la française.
Monsieur, votre frère a quitté la Corse depuis longtemps ?
Depuis 10 mois, monsieur.
Vous l'attendez bientôt ?
Oh, pas avant 3 ou 4 ans.
C'est une absence bien longue pour deux frères qui, sans doute, ne s'étaient jamais quittés.
Oui, et surtout qui s'aimaient comme nous nous aimions.
Viendra-t-il vous voir avant la fin de ses études ?
Probablement. Il nous l'a promis, du moins.
En tout cas, rien ne vous empêcherait de lui faire une visite.
Non, moi je ne quitte pas la Corse. Que voulez-vous, je suis une espèce de production de l'île. Comme le chêne vert et le laurier rose, il me faut mon atmosphère de mer et de montagne. Mes torrents à traverser, mes rocs à gravir, mes forêts à explorer. Il me faut l'espace, il me faut la liberté. Si l'on me transportait dans une ville, il me semble que j'y mourrais.
Mais comment expliquer une si grande différence entre vous et votre frère ?
Avec une si grande ressemblance physique, ajouteriez-vous si vous le connaissiez ?
Vous vous ressemblez beaucoup.
C'est au point que lorsque nous étions enfants, mon père et ma mère étaient forcés de mettre à nos habits un signe pour nous distinguer l'un de l'autre.
Et en grandissant ?
Nos habitudes ont amené une légère différence de teint, voilà tout. Toujours enfermé, toujours penché sur ses livres et sur ses dessins, mon frère est devenu plus pâle. Tandis qu'au contraire, toujours à l'air, toujours courant la montagne ou la plaine, moi j'ai bruni.
J'espère que vous me ferez juge de cette différence en me chargeant de vos commissions pour Monsieur Louis de Franqui.
Oui, certainement, et avec un grand plaisir.
Excellence, monsieur, Madame de Franqui vous fait prévenir que le souper est servi.
C'est bien, Griffo, nous descendons.
Par ici, monsieur Dumas.
Pardon, ma mère, mais je crains de vous avoir fait attendre.
En tout cas, ce serait ma faute, madame.
Rassurez-vous, je descends à l'instant même. Mais j'avais hâte de te voir, pour te demander des nouvelles de Louis.
Votre fils serait-il souffrant ?
Lucien le craint.
Vous avez reçu une lettre de votre frère ?
Non, et voilà surtout ce qui m'inquiète.
Mais comment savez-vous qu'il est souffrant ?
Parce que ces jours passés, j'ai souffert moi-même.
Pardon de ces éternelles questions, mais cela ne m'explique pas.
Vous savez que nous sommes jumeaux. Vous ne savez sans doute pas que lorsque nous sommes venus au monde, nous nous tenions encore par le côté.
Non, j'ignorais cette circonstance.
Eh bien, il a fallu un coup de scalpel pour nous séparer. Ce qui fait que, tout éloignés que nous sommes maintenant, nous avons toujours un même corps. De sorte que l'impression, soit physique, soit morale, que l'un de nous deux éprouve, a son contre-coup sur l'autre. Eh bien, ces jours-ci, sans motif aucun, j'ai été triste, morose, sombre. J'ai ressenti des serrements de cœur cruels. Il est évident que mon frère éprouve quelques profonds chagrins.
Les absents sont dans la main de Dieu. Le principal est que tu sois sûr qu'il vit.
S'il était mort, je l'aurais revu.
Et tu me l'aurais dit, n'est-ce pas, mon fils ?
Oh, à l'instant même. Je vous le jure, ma mère.
Bien. Pardon, monsieur Dumas, de ne pas avoir su réprimer devant vous mes inquiétudes maternelles. C'est que non seulement Louis et Lucien sont mes fils, mais encore ce sont les derniers de notre nom. Veuillez vous asseoir à ma droite. Lucien, mets-toi là.
La table était copieusement servie. Mais j'avoue que j'y pris peu de plaisir, tant mon esprit était préoccupé. Qu'était-ce donc que ce frère qui éprouvait les mêmes douleurs qu'éprouvait son autre frère à 300 lieues de lui ? Qu'était-ce que cette mère qui faisait jurer à son fils que, s'il revoyait son autre fils mort, il le lui dirait ?
Un nouveau livre en préparation, monsieur Dumas ?
Une pièce de théâtre, madame, que je monte bientôt à Paris.
Si vous cherchez bien, il doit y avoir dans la chambre de Louis certains de vos livres.
J'ai cru en effet apercevoir, avec une certaine fierté, je l'avoue, mes impressions de voyage.
Pourquoi venir en Corse ?
Et depuis longtemps, j'avais ce projet et je l'ai enfin mis à exécution.
Ma foi, vous avez bien fait de ne pas trop tarder. Car dans quelques années, avec l'envahissement successif des goûts et des mœurs français, ceux qui viendront ici pour y chercher la Corse ne la trouveront plus. J'imagine que vous êtes venu avec votre curiosité d'homme du monde, d'artiste ou de poète, dans l'espoir de voir quelques villages en vendette, d'être mis en relation avec quelques bandits bien originales, comme ceux que M. Mérimée a peints dans Colomba.
Serais-je mal tombé ?
Il y a bien une querelle entre deux factions qui divise le village depuis 10 ans. Il y a bien quelques bandits qui attendent dans le maquis l'heure de la vengeance. Venez avec moi ce soir, je vous en montrerai un.
Vous permettez que je vous accompagne ?
Si cela peut vous amuser, il ne tient qu'à vous.
Ah, par exemple, j'accepte, et avec grand plaisir.
Monsieur est sans doute bien fatigué.
Non, ma mère, non, il faut qu'il vienne, au contraire. Et lorsque dans quelques salons parisiens, on parlera devant monsieur de ces terribles vendettes et de ces implacables bandits corses qui font encore peur aux petits-enfants de Bastia et d'Ajaccio, du moins il pourra lever les épaules et dire ce qu'il en est.
Nos préparatifs ne furent pas longs. Je ceignis une ceinture de voyage que j'avais fait faire avant de partir de Paris, à laquelle pendait une espèce de couteau de chasse et qui renfermait d'un côté ma poudre et de l'autre mon plomb. Quant à Lucien, il reparut avec sa cartouchière, un fusil à deux coups et un bonnet pointu, chef-d'œuvre de broderie sorti des mains de quelques Pénélopes de Soulacaro.
Irai-je avec votre excellence ?
Non, c'est inutile, Griffo. Seulement lâche Diamante. Il serait possible qu'il nous fasse lever quelques faisans, et par ce clair de lune, on pourrait tirer comme en plein jour.
Un instant après, nous étions hors de la maison. Un grand chien espagnol bondissait en hurlant de joie autour de nous. Nous fîmes quelques pas, puis nous prîmes à notre droite une petite ruelle qui conduisait directement à la montagne.
Vous parlez d'une querelle de village. Quel en est le motif ?
Oh, dans une querelle, ce n'est pas le motif qui fait quelque chose. C'est le résultat. Si une mouche, en volant de travers, a causé la mort d'un homme, il n'y en a pas moins un homme mort.
Ce motif sera-t-il donc secret ?
Mon Dieu, non. La chose est née entre les Orlandi et les colonnes.
À quelle occasion ?
Eh bien, une poule s'est échappée de la basse-cour des Orlandi et s'est envolée dans celle des colonnes. Les Orlandi ont été réclamer leur poule. Les colonnes ont soutenu qu'elle était à eux. Les Orlandi ont menacé les colonnes de les conduire devant le juge de paix. Alors la vieille mère qui tenait la poule lui a tordu le cou et l'a jetée à la figure de sa voisine. Alors un Orlandi a ramassé la poule par les pattes et a voulu en frapper celle qui l'avait jetée à la figure de sa sœur. Mais au moment où il levait la main, un colonne qui par malheur avait son fusil tout chargé lui a envoyé une balle à bout portant et l'a tué.
Et combien d'existences ont payé cette rixe ?
Il y a eu 9 personnes tuées.
Et cela pour une misérable poule qui valait 12 sous.
Sans doute, mais je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas la cause. C'est le résultat qu'il faut voir.
Et parce qu'il y a eu 9 personnes de tuées, il faut qu'il y en ait 10e.
Nous verrons bien. Et contrairement à mon père ou à mon grand-père qui auraient pris parti pour l'un ou l'autre, moi, au milieu des coups de fusil et des coups de couteau, j'en suis devenu l'arbitre.
Sans doute à la prière d'une des deux familles.
Non, à celle de mon frère. Le garde des Sceaux lui a fait dire de régler cette affaire. Je vous demande un peu de quoi diable il se mêle à Paris de s'occuper de ce qui se passe dans un misérable village de la Corse. Il m'a écrit en disant qu'il avait donné sa parole pour moi. Que voulez-vous ? On ne pouvait pas dire là-bas qu'un de Franchi avait engagé la parole de son frère et que son frère n'a pas fait honneur à l'engagement.
Alors vous avez tout arrangé ?
J'en ai peur. La nuit passée, j'ai été voir un colonne et ce soir, nous avons rendez-vous avec un Orlandi. Dans les ruines du château de Vincentello d'Istria, à 1 lieue à peu près dans la montagne.
Quoique nous fussions arrivés au commencement de mars à peine, le temps était magnifique. Et la lune se levait, claire et brillante, derrière le mont de Cagna. À mesure que nous montions, nous voyions la Méditerranée calme et pareille à un vaste miroir d'acier bruni se dérouler à l'horizon.
Est-ce Diamante ?
Oui,
Il pleure son maître.
Vraiment?
Croyez-vous que les chiens soient des hommes pour oublier ceux qui les ont aimés? Diamante est un chien que j'ai recueilli. Il appartenait à un Orlandi, tué par un colonne. Nous approchons de l'endroit où il est mort. Et Diamante nous a quittés pour aller au Mukyo.
Le Mukyo, c'est la tombe?
C'est le monument que chaque passant, en y jetant une pierre et une branche d'arbre, dresse sur la fosse de tout homme assassiné. Il en résulte que le tombeau de la victime grandit toujours, symbole de la vengeance qui doit lui survivre, et grandir incessamment au cœur de ses plus proches parents.
Cependant, nous avancions toujours. Le sentier devenait de plus en plus escarpé. Je mis mon fusil en bandoulière, car je vis que j'allais bientôt avoir besoin de mes deux mains. Quant à mon guide, il continuait de marcher avec la même aisance et ne paraissait même pas s'apercevoir de la difficulté du terrain. Après quelques minutes d'escalade à travers les roches, nous arrivâmes sur une espèce de plateforme dominée par quelques murailles en ruine. Ces ruines étaient celles du château de Vincentello d'Istria qui formait le but de notre voyage.
Vous ne vous en tirez pas mal pour un Parisien.
Cela tient à ce que le Parisien a déjà fait quelques excursions de ce genre.
C'est vrai. Vous avez près de Paris une montagne qu'on appelle Montmartre.
C'est exact, mais outre Montmartre, que je ne renie pas, j'ai encore gravi quelques autres montagnes, qu'on appelle le Righi, le Vésuve, Stromboli, l'Etna.
Oh, mais maintenant, voilà que c'est vous qui allez me mépriser de ce que je n'ai jamais gravi que le Monte Rotondo. En tout cas, nous voici arrivés.
En ce moment, sur une des portions de terrain éclairées par la lune, je vis se projeter l'ombre d'un homme et celle d'un chien. C'était l'ombre du bandit Orlandi et celle de Diamante.
Vous n'êtes pas seul, monsieur Lucien.
Ne vous inquiétez pas de cela, Orlandi. Monsieur est un ami à moi qui a entendu parler de vous et qui désirait vous faire visite. Je n'ai pas cru devoir lui refuser ce plaisir.
Monsieur est le bienvenu à la campagne. N'avons-nous pas quelques mots à échanger, monsieur Lucien?
Oui, et si vous voulez me suivre?
À vos ordres.
Vous m'excuserez, monsieur Dumas, n'est-ce pas?
Oh, comment donc? Faites.
Tous deux s'éloignèrent, et montant sur la brèche par laquelle Orlandi nous était apparu, s'arrêtèrent là, debout, se détachant sur la lueur de la lune. Je ne pouvais entendre ce qu'ils disaient, d'abord parce qu'ils étaient à une vingtaine de pas de moi, ensuite parce qu'ils parlaient le dialecte corse. Mais je m'apercevais facilement à leurs gestes et à leurs voix que la discussion était compliquée. Enfin, les gestes d'Orlandi devinrent moins fréquents et plus énergiques. Puis enfin, au bout d'un instant, il tendit la main au jeune homme. La conférence, selon toute probabilité, était finie, car tous deux revinrent vers moi.
Mon cher hôte, vous pourrez dire à mon frère que tout est arrangé selon ses désirs.
Il y aura donc la paix.
La paix, oui. Est-ce que vous la voulez absolument, monsieur Lucien?
En effet. Mais parlons d'autre chose. N'avez-vous rien entendu pendant que je causais avec Orlandi?
De ce que vous disiez?
Non, mais de ce que disait un faisan dans les environs d'ici.
Il me semble que j'ai entendu coqueter, mais j'ai cru que je me trompais.
Vous ne vous trompiez pas. Il y a un coq branché dans le grand châtaignier que vous savez, monsieur Lucien, à 100 pas d'ici. Je l'ai entendu tout à l'heure en passant.
Eh bien, mais il faut le manger demain.
Il serait déjà abattu, si je n'avais pas craint qu'on ne crût au village que je tirais sur autre chose qu'un faisan. Par ici, messieurs.
Comment arriverez-vous à lui sans qu'il vous entende? Cela ne me paraît pas facile.
Non. Si je pouvais seulement le voir, je le tirerais d'ici.
Voulez-vous le voir?
Ah oui, j'avoue que cela me ferait plaisir.
Attendez alors.
Orlandi se mit à imiter le gloussement de la poule faisane. Au même instant, sans apercevoir le faisan, nous vîmes un mouvement dans les feuilles du châtaignier. Le faisan montait de branche en branche, tout en répondant aux avances que lui faisait Orlandi. Enfin, il parut à la cime de l'arbre parfaitement visible et se détachant sur le blanc mat du ciel.
À vous l'honneur, monsieur Dumas.
Je ne suis pas si sûr que vous de mon coup, moi. Tirez-le plutôt.
J'imagine que vous n'avez pas comme nous l'habitude de la chasse de nuit.
Un beau coup, il me semble.
Avec une carabine, monsieur Lucien touche à 300 pas une pièce de 5 francs.
Diamante, va chercher.
Les deux Franchi sont une famille de chasseurs.
Oh, pas tout à fait.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le frère de Monsieur Lucien avec une arme dans les mains.
Ah, voilà le faisan.
Une belle bête.
Maintenant, mon cher Orlandi, tout est réglé.
C'est dit, Monsieur Lucien. Merci de la peine. Et vous, monsieur, merci de l'honneur.
Sur cet échange de compliments, nous nous séparâmes. Orlandi rentrant dans le maquis, et nous reprenant le chemin du village.
Ainsi la paix est faite ?
Oui, et comme vous avez pu voir, ce n'est pas sans peine. Il était hésitant, les Orlandi ont eu un mort de plus. Mais finalement, les Colonna s'engagent à rendre publiquement une poule vivante aux Orlandi, concession qui prouve qu'ils reconnaissent avoir eu tort. Cette dernière considération l'a déterminé. Vous voyez que vous n'êtes pas encore trop malheureux. Vous espériez voir une vendette, eh ? Vous verrez une réconciliation. Ah, c'est autrement plus rare qu'une vendette.
Plus tard, une fois rentré dans ma chambre, Lucien revint frapper à ma porte.
Entrez.
Pour me souhaiter le bonsoir.
Excusez, mais il me semble, en y réfléchissant, que j'ai été si maussade durant le repas que je n'ai pas voulu me coucher sans vous faire mes excuses. Je viens donc faire amende honorable.
Merci 100 fois. Il y a une chose, cependant...
Je vous en prie.
Vous m'avez fait comprendre comment, grâce au phénomène de votre naissance, vous éprouvez, quoique à 300 lieues de lui, les sensations que ressent votre frère. Comme de son côté, sans doute, il éprouve les vôtres.
En effet.
Mais lorsque Madame de Franchi, à propos de ce sentiment de tristesse que vous avez éprouvé, et qui vous fait croire à quelque événement fâcheux arrivé à votre frère, vous a demandé si vous étiez sûr qu'il ne fût pas mort, vous avez répondu « Non, s'il était mort, je l'aurais revu ».
Oui, c'est vrai. J'ai répondu cela.
Eh bien, si l'explication de ces paroles peut entrer dans une oreille profane, expliquez-les-moi, je vous prie.
Cela...
Oh, tenez, je vois bien que j'ai été indiscret. Prenons que je n'ai rien dit.
Non, seulement vous êtes un homme du monde. Et par conséquent, vous avez l'esprit quelque peu incrédule. Je crains de vous voir traité de superstition, une ancienne tradition de famille qui subsiste chez nous depuis 400 ans.
Écoutez, je vous jure une chose. C'est que personne sous le rapport des légendes et des traditions n'est plus crédule que moi. Et il y a même des choses auxquelles je crois tout particulièrement. C'est aux choses impossibles.
Ainsi, vous croiriez aux apparitions ?
En effet.
Eh bien, dans notre famille, nous revoyons nos parents morts. Toutes les fois qu'un grand événement va s'accomplir ou s'est accompli.
Vous-même, avez-vous jamais eu quelque apparition ?
Non. Mais comme mon père, pendant la nuit qui a précédé sa mort, a été prévenu par son père qu'il allait mourir, je présume que nous jouirons, mon frère et moi, du privilège de nos ancêtres, n'ayant rien fait pour démériter de cette faveur.
Et ce privilège est accordé au mâle de la famille seulement.
Oui.
C'est étrange.
C'est comme cela.
À Paris, j'eusse pris ce jeune homme pour un mystificateur. Mais au fond de la Corse, dans un petit village ignoré, il fallait tout bonnement le considérer ou comme un fou qui se trompait de bonne foi, ou comme un être privilégié, plus heureux ou plus malheureux que les autres hommes.
Et maintenant, savez-vous tout ce que vous voulez savoir ?
Oui. Merci. Je suis touché de votre confiance en moi. Et je vous promets de garder le secret.
Oh mon Dieu, il n'y a point de secret là-dedans. Et le premier paysan du village vous aurait raconté cette histoire comme je vous la raconte. Seulement, j'espère qu'à Paris, mon frère ne se sera point vanté de ce privilège, qui aurait probablement pour résultat de lui faire rironner par les hommes et de donner des attaques de nerfs aux femmes. Bonsoir, monsieur Dumas.
Bonsoir, monsieur de Franck.
Le matin, j'avais annoncé à Lucien ma résolution de partir après le dîner. J'étais impérieusement rappelé à Paris par mes répétitions d'un mariage sous Louis XV, et malgré les instances de la mère et du fils, je persistais dans ma première décision. Lucien me demanda alors la permission d'user de mon offre en écrivant à son frère, et Madame de Franchi me fit promettre que je remettrais moi-même cette lettre à son fils.
L'heure est venue de nous quitter.
Ne vous reverrai-je pas un jour ?
Oui, si vous revenez en Corse.
Non. Mais si vous venez à Paris, vous ?
Je n'irai jamais.
En tout cas,
Vous trouverez des cartes à mon nom sur la cheminée de votre frère. N'oubliez pas l'adresse.
Je vous promets que si un événement quelconque me conduisait sur le continent, vous auriez ma première visite.
Je quittais Sulacaro. Le soir, je couchais à Albitechia. Le lendemain, j'arrivais à Ajaccio. Huit jours après, j'étais à Paris. Le jour même de mon arrivée, je me présentais chez Louis de Franchi. Il était sorti. Je laissais ma carte avec un petit mot. Le lendemain, comme je m'habillais, c'est-à-dire vers les 11h du matin, mon domestique m'annonça Monsieur de Franchi.
Monsieur Dumas, j'avais peine à croire à ma bonne fortune en lisant hier le petit billet que m'a remis mon domestique lorsque je suis rentré. Je lui ai fait répéter 20 fois votre signalement afin de m'assurer qu'il était d'accord avec vos célèbres portraits. Enfin, ce matin, impatient, je me suis présenté chez vous sans trop consulter l'heure, ce qui me fait craindre d'avoir été peut-être bien matinal.
Pardon si je ne réponds pas d'abord à votre compliment, mais je vous l'avoue, monsieur, je vous regarde et je me demande si c'est à Louis ou à Lucien de Franchi que j'ai l'honneur de parler.
Oui, n'est-ce pas ? La ressemblance est grande.
Je comprends que vous ayez hâte d'avoir des nouvelles de votre famille. Prenez donc cette lettre, que j'aurais laissée chez vous hier si je n'avais promis à Madame de Franchi de vous la remettre à vous-même.
Et vous avez quitté tout le monde bien portant ?
Oui, mais dans l'inquiétude.
Sur moi ?
Sur vous. Mais lisez cette lettre, je vous prie.
Vous permettez ?
Comment donc ?
Ce cher Lucien, l'affaire est donc réglée.
Oui, les Orlandi et les Colonnes sont réconciliés.
Tant mieux. Cette bonne mère. Je comprends.
Eh bien, vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, votre famille était inquiète. Et je vois avec bonheur que c'était à tort.
Non, pas tout à fait. Je n'ai point été malade, il est vrai, mais j'ai eu un chagrin. Assez violent, même. Lequel s'augmentait encore de l'idée qu'en souffrant ici, je faisais là-bas souffrir mon frère.
Votre frère m'avait déjà dit ce que vous me dites là, monsieur. Ainsi, vous-même êtes convaincu que le malaise qu'il éprouvait là-bas dépendait de la souffrance que vous ressentiez ici.
Oui, parfaitement.
Alors permettez-moi de vous demander, par intérêt et non par curiosité, si le chagrin dont vous me parliez tout à l'heure est passé, et si vous êtes en voie de consolation.
Vous le savez, monsieur, les douleurs les plus vives s'engourdissent avec le temps. Et si aucun accident ne vient envenimer la plaie de mon cœur, eh bien, elle saignera encore quelque temps, puis enfin, elle se cicatrisera. En attendant, recevez de nouveau tous mes remerciements. Et accordez-moi de temps en temps la permission de venir vous parler de Sulacaro.
Avec le plus grand plaisir. Mais pourquoi, dans ce moment même, ne continuons-nous pas notre conversation ? Tenez, voici mon domestique qui vient m'annoncer que le déjeuner est servi. Faites-moi le plaisir de manger une côtelette avec moi. Et alors nous causerons tout à notre aise.
À mon grand regret, je suis attendu. Mais nous reparlerons de tout cela plus tard. Car vous le comprenez bien, il y a un grand bonheur pour moi à revoir, avec les yeux de la pensée, évoqué par vous ma mère, mon frère, mon pays. Écoutez, c'est demain la mi-carême, n'est-ce pas ?
Eh bien.
Allez-vous au bal de l'opéra ?
Je ne sais pas.
Il faut que j'y aille, moi. Je suis obligé d'y aller.
Dans ce cas, demain, à l'opéra. À quelle heure ?
À minuit et demi. Au foyer, si vous le voulez. À 1h, j'ai rendez-vous devant la pendule.
C'est convenu. Le lendemain, à 00h30, j'étais au rendez-vous. Louis m'attendait, fébrile. Je voulus parler de la Corse, mais il était trop distrait pour suivre un si grave sujet de conversation. Ses yeux étaient constamment fixés sur la pendule. Et tout à coup, il me quitta.
Ah, voilà mon rendez-vous.
Il fendit la foule pour arriver jusqu'à une femme portant un masque. Heureusement, je fus bientôt accosté moi-même par une jeune personne, puis une autre, puis encore une autre. Enfin, je rencontrai Darcy.
Ah, mon cher Alexandre, soyez le bienvenu.
Darcy, quel plaisir.
Vous arrivez à merveille. Nous soupons ce soir chez moi et nous comptons sur vous.
Mille fois merci, très cher. Mais malgré mon grand désir d'accepter votre invitation, je ne le puis. Je suis avec un ami.
Eh bien, vous savez le proverbe, les amis de nos amis.
C'est un jeune homme que vous ne connaissez pas.
Nous ferons connaissance.
Je lui proposerai cette bonne fortune.
Oui. Et s'il refuse, amenez-le de force.
Je ferai ce que je pourrai, je vous le promets. À quelle heure se mettons à table ?
À 3h. Mais comme on y restera jusqu'à 6, vous avez de la marge. Cependant, je dois vous prévenir d'une chose.
De laquelle?
C'est que quiconque soupe avec nous ce soir doit y souper encore après-demain.
Et en vertu de quelle loi?
En vertu d'un pari fait avec Château Renaud.
Quel est donc ce pari?
Moi, ce serait trop longtemps à vous dire ici. Puis, il y a une personne intéressée dans ce pari qui pourrait le lui faire perdre si elle en entendait parler. Oh, excusez-moi, je viens d'apercevoir... Ah, mon cher ami!
Darcy me quitta aussitôt. Quelques instants après, je rencontrai à nouveau Lou.
Eh bien, mon cher, avez-vous appris ce que vous vouliez savoir?
Oh mon Dieu, oui. Vous savez bien qu'en général, on nous dit au bal masqué que les choses qu'on devrait nous laisser ignorer.
Mon pauvre ami, pardon de vous appeler ainsi, mais il me semble que je vous connais depuis que je connais votre frère. Voyons, vous êtes malheureux, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il donc?
Rien qui vaille la peine d'être redit.
Je vis qu'il voulait garder son secret et je me tus. Nous fîmes deux ou trois tours en silence. Moi, assez indifférent, car je n'attendais personne. Lui, l'œil toujours au guet et examinant chaque femme masquée qui passait à la portée de notre vue.
Tenez, savez-vous ce que vous devriez faire?
Que dites-vous? Pardon?
Je vous propose une distraction dont vous me paraissez avoir besoin.
Laquelle?
Venez souper avec moi chez un ami.
Oh non, par exemple, je serai un trop maussade convive.
Bah, on dira des folies, et cela vous égayera.
D'ailleurs, je ne suis pas invité.
C'est ce qui vous trompe, vous l'êtes.
C'est fort gracieux à votre amphitryon, mais parole d'honneur, je ne me sens pas digne.
Darcy sera fort mécontent.
Monsieur Darcy, vous le connaissez?
Sans doute. Je suis depuis deux ou trois ans en relation d'intérêt et surtout d'amitié avec lui.
Serait-ce chez lui que vous devez souper ce soir?
Justement.
En ce cas, c'est autre chose. J'accepte. Oh, j'accepte avec grand plaisir.
À la bonne heure.
Connaissez-vous monsieur de Château Renaud?
De vue seulement. Je l'ai rencontré parfois dans le monde. C'est étonnant que vous me parliez de lui. Il sera également des nôtres.
Ce n'est pas un de vos amis?
Ce n'est pas même une simple connaissance.
Ah, tant mieux.
Pourquoi cela?
Pour rien.
Mais vous-même, le connaissez-vous?
Indirectement.
Malgré l'évasif de la réponse, il me fut facile de voir qu'il y avait entre monsieur de Franqui et monsieur de Château Renaud une de ces relations mystérieuses dont une femme est le conducteur. Un sentiment instinctif me fit comprendre alors qu'il valait mieux pour mon compagnon que nous rentrions chacun chez nous.
Tenez, monsieur de Franqui, voulez-vous en croire mon conseil?
En quoi? Dites.
N'allons pas souper chez Darcy.
Ne nous attend-il pas? Ou plutôt, ne lui avez-vous pas dit que vous lui ameniez un convive?
Si fait, ce n'est point pour cela.
Et pourquoi alors?
Parce que je crois tout simplement qu'il vaut mieux que nous n'y allions pas.
Mais enfin, vous avez une raison pour avoir changé d'avis. Tout à l'heure, vous insistiez pour m'y conduire, presque malgré moi.
Nous n'aurions pas à rencontrer monsieur de Château Renaud.
Je suis au contraire enchanté de faire avec lui plus ample connaissance. On le dit fort aimable.
Eh bien, soit. Allons-y donc, puisque vous le voulez.
Nous trouvâmes chez Darcy plusieurs de mes amis. Je présentai Louis de Franqui aux uns et aux autres.
Maintenant, si toutes les présentations sont faites, je demande qu'on se mette à table.
Avec plaisir.
Toutes les présentations sont faites. Mais tous les convives ne sont pas arrivés.
Et qui nous manque-t-il donc?
Il nous manque encore Château Renaud.
Ah, c'est juste. N'est-il pas à Paris?
Oui, un pari pour un souper de 12 personnes, s'il ne nous amène pas une certaine dame qu'il s'est engagée à nous amener.
Et quelle est donc cette dame qui est si farouche qu'on engage à son endroit de semblables paris?
Ma foi, je ne crois pas qu'il y ait grande indiscrétion à vous nommer le masque, d'autant plus que selon toute probabilité, vous ne le connaissez pas. C'est madame...
Monsieur, en faveur de notre nouvelle connaissance, accordez-moi une grâce.
Laquelle, monsieur?
Ne nommez pas la personne qui doit venir avec monsieur de Château Renaud. Vous savez que c'est une femme mariée.
Oui, mais dont le mari est à Smyrne, aux Indes, au Mexique, je ne sais où. Quand on a un mari si loin, vous le savez, c'est comme si on n'en avait pas.
Je suis bien d'accord avec vous.
Son mari revient dans quelques jours. Je le connais, c'est un galant homme. Et je voudrais, si c'est possible, lui épargner le chagrin d'apprendre à son retour que sa femme a fait une pareille inconséquence.
Alors, monsieur, excusez-moi. J'ignorais cela, mais Puisque vous la connaissez, puisque vous connaissez son mari...
Je les connais.
Nous y mettrons la plus grande discrétion. Messieurs et mesdames, que Château Renaud vienne ou ne vienne pas, qu'il vienne seul ou accompagné, qu'il perde ou gagne son pari, je vous demande le secret sur toute cette aventure.
Tout à fait.
Le secret fut promis d'une seule voix. Non pas probablement par un sentiment bien profond des convenances sociales, mais parce qu'on avait très faim, et par conséquent qu'on était pressé de se mettre à table.
Merci, monsieur. Je vous assure que vous venez de faire acte de galant homme.
On passa dans la salle à manger, et chacun prit sa place. Deux places restèrent vacantes. Celle de Château Renaud et de la personne qu'il devait amener. Le domestique voulut enlever les couverts.
Non, laissez. Château Renaud a jusqu'à 4 heures. À 4 heures, vous desservirez.
Bien, monsieur.
À 4 heures sonnantes, il aura perdu.
Je ne quittais pas Louis du regard. Je le vis tourner les yeux vers la pendule. Elle marquait 3h40.
Eh messieurs, pour Dieu, puisqu'on ne peut pas parler de Château Renaud et de son inconnu, n'en parlons pas. Car nous allons tomber dans les symboles, dans les allégories, dans les énigmes, ce qui est mortellement ennuyeux.
Vous avez raison.
Il y a tant de femmes dont on peut parler et qui ne demandent pas mieux qu'on parle d'elles.
À la santé de celle-là.
Et l'on commença à remplir les verres de champagne glacé. Chaque convive avait sa bouteille près de lui. Je remarquai que Louis effleurait à peine son verre de ses lèvres.
Mais buvez donc. Vous voyez bien qu'il ne viendra pas.
Il n'est encore que 4 heures moins un quart. À 4 heures, tout en retard que je serai, je vous promets de rattraper celui qui sera le plus en avance.
À la bonne heure.
Pendant que nous échangeions ces paroles à voix basse, la conversation devenait générale et bruyante. De temps en temps, Darcy et Louis jetaient les yeux sur la pendule, qui continuait à poursuivre sa marche impassible, malgré l'impatience des deux personnes qui consultaient son aiguille. À 4 heures moins 5 minutes, je regardais Louis et levais mon verre à sa santé.
C'est lui.
Oui, mais ce n'est peut-être pas elle.
Je vais ouvrir.
C'est elle, j'en suis sûr.
Mais je vous en supplie, madame, entrez donc. Je vous assure que nous sommes tout à fait entre amis.
Entre donc, ma chère Émilie, tu ne te démasqueras pas si tu veux.
Le misérable.
4 heures moins 3 minutes.
Très bien, mon cher, vous avez gagné.
Pas encore, monsieur. Car je comprends votre insistance maintenant. Vous aviez parié de m'amener souper ici, n'est-ce pas? Puisque cet homme ne répond pas, répondez-vous, monsieur Darcy. N'est-ce pas que monsieur de Château Renaud avait parié qu'il m'amènerait souper chez vous?
Je ne puis pas vous cacher, madame, que monsieur de Château Renaud m'avait flatté de cet espoir.
Eh bien, monsieur de Château Renaud a perdu. Car j'ignorais où il me conduisait et je croyais aller souper chez une de mes amies. Or, comme je ne suis pas venue volontairement, monsieur de Château Renaud doit, ce me semble, perdre le bénéfice de la gageure.
Mais maintenant que vous y êtes, chère Émilie, vous resterez, n'est-ce pas? Voyez, nous avons bonne compagnie en homme et joyeuse compagnie en femme.
Maintenant que j'y suis, je remercierai monsieur Darcy, qui me paraît le maître de la maison, du bon accueil qu'il veut bien me faire. Mais comme malheureusement je ne puis répondre à sa gracieuse invitation, je prierai monsieur Louis de Franqui, que j'aperçois ici, de me donner le bras et de me reconduire chez moi.
Madame, je suis à votre disposition.
Je vous ferai observer, madame, que c'est moi qui vous ai amené et que par conséquent, c'est à moi de vous reconduire.
Messieurs, vous êtes ici 5 hommes. Je me mets sous la sauvegarde de votre honneur. Vous empêcherez bien, je l'espère, monsieur de Château Renaud, de me faire violence.
C'est bien, madame, vous êtes libre. Je sais à qui je dois m'en prendre.
Si c'est à moi, monsieur, vous me trouverez demain, toute la journée, rue du Helder, numéro 7.
C'est bien, monsieur. Peut-être n'aurais-je pas l'honneur de me présenter chez vous moi-même, mais j'espère qu'en mon lieu et place, vous voudrez bien recevoir deux de mes amis.
Il vous manquait, monsieur, de donner un pareil rendez-vous devant une femme. Venez, madame.
Et croyez que je vous remercie du fond du cœur de l'honneur que vous me faites.
Le lendemain, ou plutôt le jour même, j'étais à 10h du matin à la porte de Louis de Franqui.
Mon cher Alexandre, j'allais vous envoyer un mot.
À quel propos ?
Les témoins de Château Renaud viennent de partir.
Ces témoins ? Vraiment ? Ah diable, il a pris la chose au sérieux.
Il exige des réparations. Un duel. J'ai pensé à vous et à un de mes amis, le baron Giordano Martelli, pour m'assister.
Je suis très honoré, mais...
Eh bien, qu'y a-t-il qui vous embarrasse ?
Je voudrais savoir bien franchement de vous si vous regardez cette affaire comme sérieuse.
Comment donc, comme très sérieuse ? D'ailleurs, vous avez dû l'entendre, je me suis mis à la disposition de monsieur de Château Renaud. C'est lui qui m'envoie ses témoins. Je n'ai donc qu'à me laisser faire.
Oui, certainement, mais enfin, faudra-t-il savoir pourquoi vous vous battez ? On ne peut pas voir deux hommes se couper la gorge sans savoir au moins le motif du combat.
Aussi, je vous dirai en deux mots la cause de cette querelle. À mon arrivée à Paris, un de mes amis, capitaine de frégate, me présenta à sa femme. Elle était belle, elle était jeune. Sa vue me fit une impression si profonde que, craignant d'en devenir amoureux, j'évitais de les fréquenter trop souvent. Un jour, mon ami me reçut pour m'apprendre qu'il partait pour plusieurs mois au Mexique et qu'il me recommandait Émilie en son absence. Je devais veiller sur elle. Vous imaginez mes sentiments ?
Des sentiments contradictoires.
En effet. D'autant que mon ami avait exigé que sa femme continuât de recevoir. Elle organisait des soirées le vendredi. Par devoir, j'y venais. Par fidélité, je n'osais jamais rien envers elle.
Ce qui ne fut pas le cas de Château Renaud.
Vous avez bien saisi l'affaire. Dès lors, vous le comprenez, mon rôle envisagé sous le point de vue d'amant malheureux et jaloux devenait ridicule et presque odieux. Je cessais d'aller chez Émilie. Quelque temps après, j'entendis dire tout haut qu'Émilie était la maîtresse de monsieur de Château Renaud. Ce que je souffris ne peut pas s'exprimer. Ce fut alors que mon pauvre frère éprouva le contre-coup de ma douleur. Une douzaine de jours s'écoulèrent. Et sur ces entrefaites, vous êtes arrivés. Le jour même, j'avais reçu une lettre anonyme de la part d'une inconnue qui me donnait rendez-vous au bal de l'opéra. Elle voulait me communiquer des renseignements sur une dame dont le prénom était Émilie. Comme vous le savez, je m'y suis rendu, j'ai rencontré l'inconnue, qui me confirma que monsieur de Château Renaud était bien l'amant d'Émilie. Et comme preuve, elle m'indiqua que celui-ci avait parié qu'il conduirait sa nouvelle maîtresse souper chez monsieur Darcy. Vous savez le reste. Maintenant, que puis-je faire ? Sinon que d'attendre et d'accepter les propositions qui me seront faites.
Mais je crois me rappeler, je me trompe, j'espère que vous n'aviez jamais touché ni à un pistolet, ni à une épée.
C'est vrai.
Mais alors vous êtes à la merci de votre adversaire.
Que voulez-vous, Dieu y pourvoira ?
J'acceptai malgré moi de le seconder. Il fut décidé que le combat aurait lieu le lendemain, à 9h du matin, au bois de Vincennes. Que l'arme utilisée serait le pistolet. Que les adversaires seraient placés à 20 pas de distance. Qu'on frapperait 3 coups dans les mains et qu'au 3e coup, il tirerait. Le lendemain, j'étais chez Louis de Franqui à 7h30. Il était déjà dans son cabinet et écrivait. Au bruit que je fis en ouvrant la porte, il se retourna. Il était très pâle.
Pardon, j'achevais d'écrire à ma mère. Asseyez-vous, je vous prie. Il faut que vous me promettiez d'exécuter toutes mes instructions.
Certainement. N'est-ce pas un devoir pour un témoin ?
Un devoir d'autant plus réel qu'ainsi vous épargnerez peut-être à notre famille un second malheur.
Un second malheur ?
Tenez. Voici ce que j'écris à ma mère. Lisez cette lettre.
Ma bonne mère, si je ne vous savais pas à la fois forte comme une spartiate et soumise comme une chrétienne, j'emploierais tous les moyens possibles pour vous préparer à l'événement affreux qui va vous frapper. Quand vous recevrez cette lettre, vous n'aurez plus qu'un fils. Lucien, mon excellent frère, aime ma mère pour nous deux. Avant-hier, j'ai été atteint d'une fièvre cérébrale. J'ai fait peu d'attention aux premiers symptômes. Le médecin est arrivé trop tard. Ma bonne mère, il n'y a plus d'espoir pour moi, à moins d'un miracle. Je vous écris dans un moment lucide. Si je meurs, cette lettre sera mise à la poste 1/4 d'heure après ma mort. Car dans l'égoïsme de mon amour pour vous, je veux que vous sachiez que je suis mort en ne regrettant du monde entier que votre tendresse et celle de mon frère.
Adieu, ma mère, ne pleurez pas. C'était l'âme qui vous aimait et non pas le corps. Et partout où elle ira, l'âme continuera de vous aimer. Adieu, Lucien, ne quitte jamais notre mère et songe qu'elle n'a plus que toi. Votre fils, ton frère, Louis de Franqui. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie?
Ne comprenez-vous pas?
Non.
Je vais être tué à 9h10.
Vous allez être tué? Mais vous êtes fou, pourquoi vous frappez d'une pareille idée?
Je ne suis ni fou ni frappé, mon cher ami. Je suis prévenu, voilà tout.
Prévenu? Et par qui?
Mon frère ne vous a-t-il pas raconté que les mâles de notre famille y jouissent d'un singulier privilège?
C'est vrai, il m'a parlé d'apparition.
C'est cela. Eh bien, mon père m'est apparu cette nuit. C'est pour cela que vous m'avez trouvé si pâle. La vue des morts pâlit les vivants.
Vous avez vu votre père cette nuit, dites-vous?
Oui, il m'a annoncé ma mort.
Mon Dieu!
Maintenant, vous connaissez mon frère, n'est-ce pas?
Oui.
Que croyez-vous qu'il fasse s'il apprend que j'ai été tué en duel?
Il partira à l'instant même de sous la carreau pour venir se battre avec celui qui vous aura tué.
Justement. Et s'il est tué à son tour, ma mère sera trois fois veuve. Veuve de son mari, veuve de ses deux fils.
Oh, je comprends. C'est affreux.
Eh bien, c'est ce qu'il faut éviter. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire cette lettre. Croyant que je suis mort d'une fièvre cérébrale, mon frère ne s'en prendra à personne. Et ma mère se consolera plus facilement, me croyant atteint par la volonté de Dieu, que si elle me sait frapper par la main des hommes.
Hmm.
Je crois que le baron de Giordano nous attend.
Nous étions à Vincennes à 9h05. Une voiture arrivait en même temps que la nôtre. C'était celle de monsieur de Château-Renaud. Nous nous enfonçâmes dans le bois par deux routes différentes. Quelques instants après, nous étions au rendez-vous. Nous laissâmes Louis près de la voiture et nous nous avançâmes, le baron de Giordano et moi, vers les témoins de monsieur de Château-Renaud. Le baron de Giordano tenait à la main la boîte de pistolets. Les deux jeunes gens en prirent un chacun, mesurèrent rigoureusement la même charge de poudre, prirent au hasard deux balles et les enfoncèrent dans le canon avec le maillet.
Vous n'oublierez rien de ce que je vous ai demandé. Et vous obtiendrez de Giordano qu'il ne raconte rien, ni à ma mère ni à mon frère. Veillez aussi à ce que les journaux ne parlent point de cette affaire. Ou s'ils en parlent, à ce qu'ils ne mettent point les noms.
Vous êtes donc toujours dans cette terrible conviction que le duel vous sera fatal?
J'en suis plus convaincu que jamais. Mais vous me rendrez justice au moins, n'est-ce pas? Que j'ai regardé venir la mort en vrai Corse.
Votre calme, mon cher Louis, est si grand qu'il me donne cet espoir que vous n'êtes pas bien convaincu vous-même.
J'ai encore 7 minutes à vivre. Tenez, voilà ma montre. Gardez-la, je vous prie, en souvenir de moi. C'est une excellente breguet.
Dans 8 minutes, j'espère vous la rendre.
Ne parlons plus de cela. Voici ces messieurs qui s'approchent.
Messieurs.
Messieurs. On se mit à mesurer les pas dans une clairière discrète du bois.
À propos, vous trouverez mon testament sur la table où j'écrivais lorsque vous êtes entré.
C'est bien. Soyez tranquille.
Je lui pris la main. Elle était froide, mais sans aucune agitation. Il rencontra sur sa route le baron Giordano, qui tenait à la main le pistolet qui lui était destiné.
Monsieur, voici votre arme.
Il le prit, l'arma, et sans même y jeter les yeux, alla se placer à son poste, indiqué par un mouchoir. Monsieur de Château-Renaud était déjà au sien. Il y eut un instant de morne silence, pendant lequel les deux jeunes gens saluèrent leurs témoins, puis ceux de leur adversaire, et enfin se saluèrent l'un l'autre. Monsieur de Château-Renaud paraissait parfaitement avoir l'habitude de ce genre d'affaires, et il était souriant, comme un homme sûr de son adresse. Peut-être savait-il d'ailleurs que c'était la première fois que Louis de Franqui touchait un pistolet. Louis était calme et froid. Sa belle tête avait l'air d'un buste de marbre.
Eh bien, messieurs, vous le voyez, nous attendons.
Au même instant, je vis Louis de Franqui faire 2 tours sur lui-même et tomber sur un genou. Monsieur de Château-Renaud resta debout.
le revers de sa redingote seulement avait été traversé.
Vous êtes blessé. Souvenez-vous de votre promesse.
Oh, je vous jure qu'il sera fait comme vous désirez.
Et maintenant, regardez la montre.
Il est juste 9h10.
Et je suis mort.
Cinq jours après l'événement, vers les 11h du soir, je travaillais devant ma table, au coin de mon feu, seul, et dans une disposition d'esprit assez maussade, lorsque mon domestique entra, referma la porte vivement, et d'une voix assez agitée me dit que Monsieur de Franchi demandait à me parler. Je le traitais de fou. Pourtant, presque aussitôt, je vis effectivement apparaître sur ma porte Monsieur de Franchi. J'avoue que mon premier sentiment fut un sentiment de terreur. Je me levai et fis un pas en arrière.
Pardon de vous déranger à une pareille heure, mais je suis arrivé depuis 10 minutes et vous comprenez que je n'ai pas voulu attendre à demain pour venir causer avec vous.
Oh, mon cher Lucien. C'est vous, c'est donc vous?
Oui, c'est moi.
Alors vous n'avez pas pu recevoir la lettre? Vous ne savez donc rien?
Je sais tout.
Impossible. La lettre de votre frère est à peine arrivée maintenant.
Mon cher Alexandre, les morts vont vite.
Que voulez-vous dire? Expliquez-vous, je ne comprends pas.
Oubliez-vous ce que je vous ai raconté des apparitions familières à notre famille?
Vous avez vu votre frère?
Oui.
Et quand cela?
Pendant la nuit du 16 au 17. Il m'a dit qu'il avait été tué en duel. Les morts ne mentent pas.
Il vous a dit par qui?
Par monsieur de Château-Renaud.
Non, n'est-ce pas? Non, vous avez appris cela d'une autre façon.
Croyez-vous que je sois en disposition de plaisanter?
Pardon, mais en vérité, ce que vous me dites est si étrange. Et tout ce qui vous arrive, à vous et à votre frère, est tellement en dehors de la loi de la nature...
Que vous ne voulez pas y croire, n'est-ce pas? Je comprends. Mais tenez, regardez sous ma chemise. Croirez-vous à cela?
Une marque bleue. En vérité, c'est juste en cet endroit que votre frère a été touché.
Et la balle est sortie ici. Et maintenant, voulez-vous que je vous dise à quelle heure il est mort?
Dites.
À 9h10.
C'est miraculeux. Que venez-vous faire à Paris?
Je viens tuer celui qui a tué mon frère.
Le tuer?
Oh, soyez tranquille, pas à la manière corse derrière une haie ou par-dessus un mur. Non. Non. À la manière française, avec des gants blancs, un jabot et des manchettes.
Madame de Franchi, c'est elle que vous êtes venue à Paris dans cette intention?
Oui. Elle m'a embrassé au front et m'a dit « va ». Ma mère est une vraie Corse.
Mais de son vivant, votre frère ne voulait pas être vengé.
Eh bien, il aura changé d'avis depuis qu'il est mort. Cher Alexandre, voulez-vous m'accompagner jusqu'à Vincennes? C'est un pieux pèlerinage que je compte accomplir. Si vous n'avez pas le temps, j'irai seul.
Comment seul? Et qui vous indiquera la place?
Oh, je la reconnaîtrai bien. Je l'ai vue en rêve.
C'est bien. Je vous accompagnerai.
Nous approchons, n'est-ce pas?
Oui. À 20 pas d'ici, nous serons à l'endroit où nous entrâmes avec votre frère dans la forêt.
Lucien entra dans le bois sans hésitation, et comme si déjà 20 fois il y était venu. Il marcha droit à la fondrière, et quand il fut arrivé, s'orienta un instant. Puis s'avançant jusqu'à la place où son frère était tombé, il s'inclina vers le sol et observa sur la terre une place rougeâtre.
C'est ici, n'est-ce pas ? Et c'est ici qu'était monsieur de Château-Renaud.
En effet.
C'est là que nous nous battrons demain.
Comment demain?
Oui. Ou il est un lâche, ou demain il me donnera ma revanche.
Mais mon cher Lucien, l'habitude en France, vous le savez, est qu'un duel n'entraîne pas d'autres suites que les suites naturelles de ce duel. Monsieur de Château-Renaud s'est battu avec votre frère qui l'avait provoqué. Mais il n'a rien à faire avec vous. Ce n'est pas une vendetta à la Corse.
Ah vraiment? Parce que mon frère offrait son appui à une femme que monsieur de Château-Renaud avait lâchement trompée, il avait selon vous le droit de provoquer mon frère? Monsieur de Château-Renaud a tué mon frère, qui n'avait jamais touché un pistolet. Et moi?
Moi, je n'aurais pas le droit de provoquer monsieur de Château-Renaud? Allons donc. D'ailleurs, vous n'avez rien à faire dans tout cela. Soyez tranquille, j'ai écrit ce matin à Giordano. Et quand nous reviendrons à Paris, tout sera arrangé. Croyez-vous donc que monsieur de Château-Renaud refusera ma proposition?
Monsieur de Château-Renaud a malheureusement une réputation de courage qui ne me permet point d'élever le moindre doute à cet égard.
Alors tout est pour le mieux. Allons déjeuner. C'est moi qui vous invite au café de Paris. N'est-ce point là que dînait ordinairement mon frère?
Je le crois.
Lucien avait envoyé Giordano tout arranger avec Château-Renaud. Ce dernier avait accepté le duel aux mêmes conditions. Le lendemain, à 8h moins un quart, j'étais chez Lucien. Il avait le sourire sur les lèvres, quoiqu'il fût fort pâle. J'étais inquiet pour lui. Je pensais à sa mère. À 8h, nous partîmes. Lucien avait si grande hâte d'arriver qu'il poussa le cocher. Nous étions au rendez-vous plus de 10 minutes avant l'heure. Giordano nous attendait déjà. Nos adversaires arrivèrent à 9h juste. Monsieur de Château-Renaud jeta les yeux sur Lucien. Tout éloigné que nous étions de lui, je le vis pâlir, comme à la vision d'un fantôme.
Nous voici, messieurs. Mais vous savez nos conditions. C'est que ce duel est le dernier. Et que, quelle qu'en soit l'issue, je n'aurai plus à répondre à personne du double résultat.
C'est convenu. D'autant que je suis le dernier de ma famille.
Aussitôt, nous nous enfonçâmes dans le bois sans prononcer une seule parole. Monsieur de Château-Renaud, grâce à une grande puissance sur lui-même, paraissait maintenant calme. Mais de temps en temps, il jetait à la dérobée un regard sur Lucien. Et ce regard exprimait une inquiétude qui ressemblait à de l'effroi. Ensuite, tout alla très vite. Sans qu'on lui indiquât sa place, Lucien alla prendre celle qu'occupait son frère, ce qui força naturellement monsieur de Château-Renaud à se diriger vers celle qu'il avait déjà occupée. Lucien reçut son arme avec un sourire de joie. Monsieur de Château-Renaud, en prenant la sienne, de pâle qu'il était, devint livide. Puis il passa sa main entre sa cravate et son cou, comme si sa cravate l'étouffait.
Y êtes-vous, messieurs?
Oui. Oui.
Je me retournai. Monsieur de Château-Renaud était étendu sur le sol, tué net, sans avoir poussé un soupir, sans avoir fait un mouvement. Je courus vers Lucien. Il était resté calme et immobile. Mais en me voyant à sa portée, il laissa tomber son pistolet et se jeta dans mes bras.
Mon frère. Mon pauvre frère.
Vous l'avez revu, n'est-ce pas?
Comme je vous vois, il m'annonçait la mort de Château-Renaud.
Et il éclata en sanglots. C'étaient les premières larmes que le jeune homme eut versées.
C'était « Les frères Corses » d'Alexandre Dumas. Adaptation, Laurent Martin. Avec Thibaut Vinson, Alexandre Dumas. Julien Barré, Louis et Lucien. Evelyne Guimara, La Mère. Yvan Cory, Orlandi. Laurent Cléry, Darcy. Nicolas Racca, Château-Renaud. Louise Pastot, Émilie. Et Martin Amic, Thierry Barthes, Albertine Villain-Guimara, Nathalie Canoui, Étienne Launay, Mali Van Wallenberg, Apolline Roy, Félicien Delon, Anne Cantino, Sarah Glon, Grégory Sangelin, Myrène Astré, Manuel Levelli. Bruitage, Patrick Martinache, Jean-François Bernard Sugy. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Jean du Cimetière. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Michel Sidoroff.